السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc bienvenue. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et on rappelle aussi de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. Donc il faut toujours la bonne intention pour avoir les récompenses. Donc la fois précédente, nous avions parlé d'un sujet très important, la préservation des prophètes et de leurs attributs, les prophètes et messagers. Donc on a vu que les prophètes sont les meilleurs des créatures, on a cité le verset. Et bien sûr que tous, ils ont une seule religion qui est l'islam, qui est la seule religion de vérité. Et qu'est-ce qui change? Ce sont les lois entre les prophètes messagers. Mais la croyance est la même, la croyance en Dieu qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qu'on ne peut pas l'imaginer, qui existe, qui ne dépend pas de l'espace ni du temps, c'est la religion de tous les prophètes. Ils sont préservés, les prophètes, de la mécréance, des grands péchés, comme le suicide, la fornication, des petits péchés de bassesse, du mensonge, de la trahison, de la stupidité, avant leur mission de prophète, tout comme après. On a vu le hadith qu'ils ont tous un beau visage, une belle voix. Et donc ils n'ont pas de maladie repoussante. Il n'y a pas un prophète qui sort des vers de lui. Ils ont des maladies, mais pas les maladies repoussantes. Donc on a montré l'invalidité de l'histoire que racontent certains. Donc les histoires qu'on les savants ils appellent israéliyat, on a vu. C'est-à-dire c'est des mensonges que disent des gens du livre sur les prophètes. Parce que les gens du livre, comme c'est dit dans le Coran, ils sont devenus mécréants en ayant falsifié les livres et en ayant attribué à Dieu l'associé, la localisation, donc le fils, etc. La ressemblance aux créatures, etc. Et autres comme blasphème. Donc ils sont préservés de tout ce qui repousse les gens d'accepter leur appel. Parce que Dieu les a envoyés pour appeler les gens à la vérité. Donc il leur a donné la belle apparence et le bon comportement. Et donc ce sont des modèles pour des gens. Donc Ayoub, il est tombé malade à 18 ans, mais ce n'était pas une maladie repoussante. Il a patienté et Dieu l'a soulagé. Et on a montré les preuves, le hadith qui parle que les prophètes, ils ont tous un beau visage, une belle voix. Dans le Coran, sourate Yusuf, la belle apparence de Yusuf, elle est citée clairement, au point que les femmes se sont coupées les mains, tellement elles étaient subjuguées par la beauté de Yusuf. Et on a parlé aussi, en parlant de nous, sauf que ils sont préservés de vouloir faire la fornication des choses viles. Et on a montré que c'est la femme du dignitaire d'Égypte qui voulait faire la fornication avec lui. Et lui, il est parti. Et puis elle a déchiré son vêtement par derrière et c'était une preuve contre elle. Et donc, la règle, on a dit, on peut pas interpréter le Coran comme ça tout seul ou lire des simples traductions. Donc, le danger, beaucoup, beaucoup ils s'égarent en commençant à faire des recherches tout seul dans des livres. Donc la religion, on a besoin de quelqu'un de confiance qui a une chaîne de transmission qui nous transmet. C'est pas on lit tout seul dans les livres. Les livres d'une, les livres que les gens ils regardent la plupart, mais c'est pas des manuscrits, mais c'est des simples choses éditées et imprimées dans des imprimeries par des gens qui sont là pour gagner de l'argent. Donc c'est pas vérifié. Et puis de deux, la personne peut mal comprendre une phrase équivoque. Et aussi même, ça arrive que des livres soient falsifiés. Et c'est au nom d'un savant, mais ça a été falsifié, ça a été changé à une des étapes. Donc il y en a, ils falsifient des livres, certaines sectes, pour leur intérêt, donc en imprimant des livres, parce qu'ils ont de l'argent pour imprimer des livres. Et des fois, avant, dans le passé, il y en a certaines falsifications faites par d'autres sectes. Et ça arrive aussi que celui qui copie, il a fait un oubli. Ou le savant lui-même, il était fatigué, mais il a fait un oubli, il n'a pas révisé l'écrit qu'il a écrit. Et ça, comme ça arrive aux gens de faire un lapsus de la langue ou d'écriture, ça arrive aux savants. C'est les prophètes qui sont préservés du lapsus. Donc là aussi, en parlant des caractéristiques des prophètes, c'est que ils sont préservés du lapsus. La sagesse, c'est que Dieu les a préservés parce que c'est eux qui transmettent la loi. Sinon, n'importe qui mettrait en doute leurs paroles en disant peut-être c'est un lapsus quand il a ordonné telle chose ou il a interdit telle autre. Donc Dieu a préservé les prophètes du lapsus, c'est-à-dire de dire autre chose que ce qu'il voulait dire, qui peut nous arriver à nous. Quelqu'un il va appeler son fils par un nom et l'appelle par l'autre nom. C'est ça le lapsus, c'est dire autre chose qu'on voulait, ce qu'on que la chose qu'on voulait dire. Et bien sûr, c'est pas noté pour nous. Et le prophète, il a montré l'exemple de celui qui a dit une mécréance par lapsus. Et bien sûr, c'est pas noté. L'homme qui était tellement content qu'il a dit oh Dieu, tu es mon esclave et je suis ton seigneur. Alors qu'il voulait dire l'inverse, il voulait dire, oh Allah, tu es mon seigneur et je suis ton esclave. Il a fait un lapsus tellement il était content. Donc le lapsus, ce n'est pas noté. Donc ça arrive dans la langue, ça arrive dans l'écriture, ça peut arriver aux savants aussi. C'est pour cela les savants, ils transmettent les livres par transmission. Donc beaucoup de nos jours, ils s'égarent en lisant à droite à gauche les livres, ils croient qu'ils sont devenus des savants en lisant des livres. Même des gens débutants, 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 il y en a, ils s'égarent en lisant des livres à droite à gauche. Donc, la religion, c'est par transmission orale. Il faut une chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance, dignes de confiance. Donc, on a montré que Youssef, il était préservé de cela. Et donc, de même, on a vu qu'ils ont tous une belle voix, parlent de façon compréhensible. Et on a parlé de l'histoire de Saïdna Moussa, ce qui lui arrivait à l'époque dans le palais de Pharaon, le fait qu'il a mis une braise. Cela n'a pas fait de lui quelqu'un qui bégaye, qui sait pas s'exprimer, qui maîtrise pas sa langue. Ça, c'est pas digne des prophètes. Parce qu'ils transmettent, donc ils transmettent principalement en parlant. Donc, alors, ce qui est cité dans le Coran, bien sûr, comme on a dit, les versets, comme Sayyidina Yusuf, on a montré que ce qui visait Wahammat bihi Wahamma biha, c'est-à-dire, eux, ils voulaient, elle voulait faire la fornication et lui, il voulait la repousser. Mais Dieu lui a inspiré de ne pas la repousser, car elle va donc dire que c'est toi qui as voulu faire. Et effectivement, quand elle a couru derrière lui, qu'elle voulait le rattraper, elle a déchiré son vêtement par derrière. Et quand son mari il est arrivé, tout de suite elle a accusé Youssouf. Et ils ont vu que il était déchiré par derrière, et donc ils ont su que c'est pas lui qu'il voulait, mais c'est elle. Donc il est arrivé une chose extraordinaire, c'est qu'un nourrisson, il a parlé. Et il a dit, regardez, s'il s'est déchiré par devant, alors il a menti, elle a dit vrai. Et s'il s'est déchiré par derrière, alors elle a menti, il a dit vrai. Parce que lui, il a dit, bien sûr, quand elle l'a accusé, il a dit tout de suite, hi raudatni an nafsi. C'est elle qui voulait, c'est pas moi. Et donc c'est défendu. Et ils ont vu la preuve, effectivement. Ils ont su, donc, mais comme c'était une femme de dignitaire connue et que les femmes commençaient à parler, ils ont mis quand même injustement le prophète Youssef en prison. Donc, pour moi, Moussa alayhi salam, le verset qui parle Uqda, ils ont dit les savants, c'est une légère lenteur suite à ce qui est arrivé dans le palais de Pharaon. Donc Dieu l'a soulagé de cela. Dieu l'a soulagé de cette chose quand il a reçu la révélation. C'est cela la signification. Donc c'est là on revient aujourd'hui pour revoir certaines histoires en fait et certaines interprétations pour bien comprendre. Donc et aussi on a parlé du prophète Daoud aussi. C'est faux ce qu'il lui attribue. Et c'est, donc il n'a pas voulu prendre une femme mariée et envoyer son mari se faire tuer pour la prendre en fait. C'est ce qu'ils disent les gens du livre en fait, c'est ce qu'on appelle Israiliyat. Parce que des fois, il y en a, ils lisent certains tafsirs, mais des savants, des fois ils rapportent. Des fois ils répliquent, des fois non, mais juste ils simplement rapportent, voilà, tel gens ils ont dit ça, ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à cela. On a vu aussi, en parlant que les prophètes sont préservés du suicide. Et on a expliqué deux histoires aussi. Le prophète ne voulait pas se suicider. Ni Muhammad, ni Younes, parce que c'est arrivé deux choses similaires au prophète Younes et au prophète Muhammad, on a vu. Que l'un, il voulait se lancer dans l'eau, et le prophète, il voulait se lancer du haut de la montagne. Dans les deux cas, les prophètes, ils savent, on a dit, qu'ils sont des prophètes, qu'ils sont préservés. Et quand ils voulaient faire ça, en croyant que Dieu les protège, ce n'est pas pour se tuer. Parce que les prophètes, ils savent qu'ils ont des secrets. Et on a donné un exemple parmi des centaines d'exemples qui sont arrivés, ou de gens vertueux. Donc ça, c'est connu dans la culture musulmane, les gens vertueux, les saints. Les saints, c'est ceux qui suivent correctement les prophètes. La meilleure sainte citée dans le Coran, Mariam, la mère de Isa, il s'est cité, les prodiges qui lui arrivaient, les fruits d'été en hiver et les fruits d'hiver en été que Zacharie a trouvé près d'elle, le prophète Zacharie, ou le saint de l'époque de Saïdna Sulaiman qui a ramené le trône de la reine du Yémen, de Saba, en très peu de temps, et c'était un saint. Donc c'est les prodiges, les secrets que Dieu donne. Khalid ibn Walid, on a vu qu'il a bu le poison qu'il voulait lui donner, et il a dit Bismillah, il a dit la yadurru ma'asmihi shay, fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u al-alim. Si Khalid, alors qui c'est pas un prophète et qui fait même pas partie des 10 meilleurs compagnons, et pourtant, mais c'était un saint, il a fait ça, est-ce qu'il voulait suicider Khalid? Non. C'est qu'il a su que Dieu lui a donné un secret, une préservation, sachant que Dieu le préserve. Si Khalid y fait cela, que dure des prophètes qui sont meilleurs que Jibril? Donc, il faut bien comprendre, car il y a des gens, ils ont lu Al-Bukhari tout seul et ils ont dit c'est permis de suicider. Donc vous voyez la gravité de la malinterprétation. Alors suicider, c'est le deuxième plus grand péché en islam après la mécréance de toutes ces sortes. La mécréance, c'est le plus grave péché. La mécréance elle-même, il y a plusieurs sortes. Insulte de Dieu, les prophètes, les anges, renier la religion. Le plus grave de la mécréance, c'est l'athéisme, renier l'existence de Dieu. Mais toutes sortes de mécréances, c'est le plus grave péché. Après, c'est tuer l'âme que Allah a interdit de tuer, donc y compris le suicide. Se tuer soi-même. Donc ces gens-là, en lisant mal des hadiths tout seuls ou des versets, ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Comme malheureusement ces gens-là qui font la prostitution et ils croient qu'ils font du bien de nos jours, ceux qui vont faire donc l'extrémisme, etc. les wahhabites, ceux qui suivent les wahhabites, ils vont tuer des musulmans à droite à gauche et faire la prostitution, et ils croient qu'ils font du bien. Donc vous voyez la gravité de la malcompréhension, d'où l'importance de la science de la religion. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Quant à, il a dit innamal ilmu bit-ta'allum, c'est-à-dire certes la science de la religion, c'est par transmission. Quand tu comprends la religion comme il faut, tu es préservé de ne pas tomber dans des idées extrémistes ou laxistes. Donc, comme ces gens-là qui considéraient le suicide permis parce que ils ont cru que le prophète voulait se suicider. Alors qu'on a bien vu l'explication. Le prophète, il voulait se lancer du haut de la montagne en sachant que Dieu le préserve. Comme le prophète Younes, quand il voulait se lancer dans la mer et que il était avalé par la baleine, et puis la sortie indemne. Donc c'était une épreuve pour lui. Donc, et d'ailleurs, on a dit, on a parlé que l'unanimité des savants, que les grands péchés, la mécréance, l'indécence, la vilenie, la stupidité sont impossibles au sujet des prophètes. Dieu les a préservés de cela, et attribuer cela aux prophètes, c'est un blasphème. Donc, croire qu'un prophète n'est pas musulman, ben, c'est de la mécréance, bien évidemment. Malheureusement, on trouve des gens, ils vont insulter les prophètes parce qu'ils pensent que ce n'est pas des musulmans. Et ça, c'est de la mécréance, car l'islam est la religion de tous les prophètes. Donc, et après, on a dit, les petits péchés qui ne comportent pas de bassesse, c'est possible au sujet des prophètes selon la majorité des grands savants. C'est possible qu'ils commettent un petit péché, mais ils se repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Et donc les règles, d'où les ramènent les savants, bien sûr. On rappelle une chose importante. Les règles de la religion, c'est pas la parole d'un savant. Les preuves dans la religion, c'est le Coran, le hadith confirmé, l'unanimité des savants mujtahid. Savants comme Shafi, Malik, Abu Hanifa, l'imam Ahmad, l'Aouzaï. Donc, c'est ce genre de savant mujtahid. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ils étaient savants mujtahid aussi. C'est le plus haut niveau qui lui permet, qui a les conditions, les prérequis pour extraire des lois à partir du Coran et du Hadith. Leur unanimité, c'est une preuve religieuse. Mais les simples paroles de savant n'est pas une preuve religieuse. Omar, il s'est trompé, il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai devant les gens. Et le prophète, alayhi nous dit, chacun en prend de sa parole et en délaisse, sauf le prophète. Il n'y a que le prophète qui ne se trompe pas. Dans la religion, les prophètes ne se trompent pas. Donc ça aussi, on va y revenir dessus. Les prophètes ne se trompent pas, donc, dans la religion. Donc, c'est pas, certains qui vont, comme on a dit, ils commencent à lire à droite et à gauche, et commencent à donner des règles religieuses parce qu'ils lisent à droite à gauche, ils font des recherches sur Internet, ils se croient savants. Ils se croient parce que ils cliquent sur Google, il a des résultats, 1 million de résultats en quelques secondes, c'est marqué en petit. Ils croient que ça y est, c'est devenu l'imam Shafi, Malik, Bukhari. Donc en réalité, les gens ils sont dupés par Shaitan, réellement. Et on trouve même des gens, ils comprennent deux mots, trois mots en arabe, et ça y est, ils commencent à faire des recherches à droite à gauche et donner des règles de la religion, des détails sur des règles très minutieuses comme sur les prophètes. Donc c'est pas un jeu la religion. Donc, comme on a dit, même si tu as des milliers de livres, tu vas pas devenir savant. Comme il a dit un savant, le sens de sa parole. Il a dit, ne crois pas que avec des livres tu passeras de savant comme nous. Certes, la poule a des ailes, mais elle ne vole pas. C'est pas parce que tu as des livres que tu deviens savant. Donc les livres, c'était des supports de révision. En tout cas, même dans la science mondaine, t'achètes donc pour 1 million d'euros de livres de médecine. Tu vas pas devenir chirurgien ou médecin, même si tu passes des nuits à les lire. Tu passes 10 ans à lire des livres de médecine, est-ce que tu seras un médecin? Aucun hôpital dans le monde, n'importe quel hôpital dans le monde ne t'acceptera comme médecin. La religion, c'est encore plus important. Allah dit, wal-akhiratu khayrun laka min al-ula. C'est-à-dire, l'au-delà, c'est mieux que cette vie. Cette vie, tout ce que tu fais pour cette vie, tu profites quelques années, c'est tout. T'es médecin, bah, tu vas faire des choses quelques années. T'as de l'argent, tu vas faire des choses quelques années. Après, c'est la fin. Mais la religion, quand tu suis, tu seras gagnant ici. Et la récompense, c'est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'années qui ne s'arrêtent jamais. Donc, si les livres tout seuls ne suffisent pas pour ce bas monde, ils ne sont pas acceptés par tout le monde, même par les non-musulmans, c'est pas accepté d'être médecin, mais parce que tu as lu des livres de médecine, que dire la religion qui est plus importante? Donc, la religion, c'est par transmission, comme on a dit. Donc, c'est faire attention à la duperie de certains, ou donc à la mauvaise suggestion du shaitan qui fait croire à certains qu'ils sont devenus des gens intelligents, qui comprennent bien, parce qu'ils ont lu des livres à droite à gauche, ou ils ont fait des recherches à droite à gauche sur Google. Donc, alors, la majorité des grands savants, ils sont basés sur, voilà, Adam, il a commis un petit péché, c'est cité dans le Coran. Il a mangé du fruit de l'arbre duquel Dieu lui a interdit, il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Donc, c'est un petit péché qui ne comporte pas de bassesse. En parlant du prophète Younes, il a été éprouvé parce qu'il a fait un petit péché, il a quitté son peuple avant d'avoir leur autorisation, parce qu'il n'est pas permis au prophète de quitter son peuple avant d'avoir l'autorisation, parce qu'il a désespéré d'eux et il les a quittés. Donc c'était, les savants ils ont dit, c'est un petit péché qui ne comporte pas de bassesse. Donc voilà, la règle chez les savants, que le petit péché qui ne comporte pas de bassesse, c'est possible qu'ils le commettent les prophètes, mais ils se repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Donc parce qu'ils sont basés sur ces preuves-là, du Coran, du Hadith, qui parle de ces péchés donc que certains ont commis, mais ils se repentent avant que d'autres ne les suivent. Donc alors, parmi les spécificités des prophètes, qu'on a dit, ils se trompent pas dans la religion. Donc accuser les prophètes de se tromper dans la religion, c'est un blasphème. C'est remettre en cause les fondements de la religion. C'est ouvrir la porte à quiconque qui dirait peut-être le prophète s'est trompé sur cette obligation, sur cette ce qui constitue une destruction de la religion en fait. Donc ça c'est un blasphème. Les prophètes ne se trompent pas dans les règles de la religion. Que ce soit par révélation ou parce que la majorité des savants ils disent les prophètes ils peuvent faire des déductions. Comme Chef et Melk qui font des déductions, sauf que Chef et Melk, ils peuvent se tromper, mais pas les prophètes. Pas le prophète, alayhi salam, il peut faire des déductions pour donner une règle sur l'interdit ou le permis. Il se trompe pas. Ni dans ce qui est révélé directement, ni ce qui est dit par ijtihad, par effort de recherche. Il ne se trompe pas. Maintenant, le détail dans les sujets mondains. Parce que le prophète, il parlait des fois des sujets mondains. Il y a les sujets religieux, il y a les sujets mondains. Là aussi, c'est important d'en parler. C'est que les sujets mondains, que le prophète il dit par révélation, il ne se trompe pas. Tout ce qui est par révélation, que ce soit mondain ou religieux, il ne se trompe pas. Les sujets religieux, que ce soit par effort de recherche ou par révélation, il ne se trompe pas aussi. Les sujets mondains, par révélation, il ne se trompe pas. Les sujets mondains qu'ils disent sans révélation, ils ont dit c'est possible qu'ils se trompent, les savants. Il y a une histoire concernant les palmiers où le prophète, une fois, il leur a dit de ne pas. Il a vu qu'ils faisaient la pollinisation. Parce qu'il y a un palmier mâle et femelle, il prenait des choses du palmier donc mâle, il mettait sur le palmier femelle. Une fois, le prophète l'a dit de ne pas le faire, de délaisser, c'est mieux. Et quand ils ont fait, ça n'a pas donné beaucoup. Quand ils n'ont pas fait en fait cette pollinisation. Et là, c'est là que le prophète il a dit in amartukum bi amrin umuri din fakhudhuhu. C'est-à-dire si je vous ordonne un sujet de la religion, il faut le prendre. C'est-à-dire je me trompe pas. Et si je vous ordonne un sujet mondain, وإن أمرتكم بأمر من أمور دنياكم فإنما أنا بشر. Ici, je vous demande une chose, donc du bas monde, d'un sujet mondain. Il a dit, certes, je suis un humain, c'est-à-dire, ils ont dit les savants, ça, il peut se tromper dans les sujets mondains qui sont sans révélation. Donc vous voyez, c'est détaillé la religion, c'est pas des recherches personnelles qu'on fait, c'est une transmission auprès des gens de confiance, de gens de confiance jusqu'aux compagnons. C'est comme ça la religion. Donc voilà les règles religieuses. Donc ça c'est un sujet très important pour bien comprendre, parce qu'on parle des prophètes. Et de nos jours, comme le prophète nous dit, parmi les signes de la fin du monde, Bada ad-din ghariban wa sayaoud ghariban kama bada. La religion, elle a commencé étrange, elle va redevenir étrange comme elle a été. Donc il y a beaucoup d'ignorance de la religion. Il faut savoir, il n'y a pas très longtemps, les colonisateurs, ils ont fermé l'enseignement religieux dans quasiment tous les pays musulmans. Parmi la première chose qu'ils faisaient, c'est arrêter l'enseignement pour que les gens restent vides. Et on leur ramène les idées extrémistes ou laxistes. Ils deviennent athées, d'autres extrémistes, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fermé les grandes instances. Donc ça, ces sujets-là, c'était les attributs de Dieu, les attributs des prophètes, c'était enseigné aux jeunes enfants dans les pays musulmans il n'y a pas très longtemps, dans ce siècle-là. Il y a les livres encore, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient. Il y a des livres encore, les manuels, ils sont jusqu'à maintenant présents, qui étaient enseignés aux jeunes enfants. Donc, les colonisateurs, pour pouvoir prendre les richesses des pays musulmans, parce que dans l'histoire, ceux qui défendaient les pays musulmans, ben, c'était les bons pratiquants qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Donc c'est important de comprendre, parce que c'est la même chose qui est faite maintenant. On met des gens qui ont d'apparence dans la barbe, etc. Donc et ils vont dire des choses contraires à l'islam. Il y a ces gens-là qui disent qu'on peut se moquer du prophète, ils se moquent des prophètes. Il y en a un leader de cette secte connue. Donc il y a deux principales sectes utilisées par les occidentaux contre les pays musulmans jusqu'à nos jours, financés, aidés, armés même. Donc ça s'est avéré bien évidemment. Donc on les voit, ils vont un des leaders de cette secte, il dit le prophète il se trompe dans la religion, il a dit dans une chaîne tenue par ces mêmes gens. Et même Al-Azhar lui a répliqué avec un discours du vendredi, ils ont cité le verset notamment wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, c'est-à-dire c'est le prophète ne prononce pas sous l'effet de la passion et c'est une révélation que Dieu lui révèle. Donc c'est une preuve qu'il se trompe pas aussi sur les sujets religieux. Donc c'est des gens de maintenant et ils ont dit ça ou publiquement. Il y en a aussi parmi cette même secte très connue avec une grande barbe, hein. En fait, ils trompent les gens avec l'apparence. Il dit aux gens, tu peux te moquer du prophète, il n'y a aucun problème. Et ça, c'était dans un pays arabe, hein. Et c'était un docteur, soi-disant, dans cette secte-là, qui se fait appeler islamique. Il dit clairement aux gens, et la vidéo enregistrée en public, hein, elle est disponible. Il dit, insulte le prophète, il n'y a aucun problème, etc. Donc, voilà, donc, ces règles très importantes qu'il faut maîtriser. Pour ne pas tomber dans le piège de ces gens-là, parce que tomber, c'est facile dans ces pièges-là si on y ignore. C'est pour cela le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Ya Aba Dhar, wa la antardwa, il dit, la antardwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khayrul laka min antusalli mi'ata raka'a. C'est-à-dire, ô Abu Dhar, si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, t'auras, donc il dit d'abord, si tu vas et tu apprends un verset du Coran, t'auras plus de récompenses que si tu priais 100 raka'a, des prières nafila sur le rogatoire. Et si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, t'aura plus de récompenses que si tu pries 1000 raka'a, des prières surrogatoires. Alors 1000 raka'a, c'est vraiment des heures. Donc un chapitre de la religion, ça te préserve en fait des règles là, comme là ce chapitre là dont on parle. Donc on a vu les prophètes, les détails sur Donc on répète, le prophète, il se trompe pas tout ce qui est par révélation, que ce soit il parle du religieux ou des sujets mondains. Et ce qui n'est pas par révélation, si c'est de la religion, il se trompe pas. Et si c'est mondain, c'est possible qu'il se trompe. Et on a vu la preuve. Donc, vous voyez, les savants, ils tournent autour des preuves. C'est pas la vie de X ou de Y ou de Z. Preuve, le Coran, le Hadith, l'unanimité. Donc, c'est une preuve. L'unanimité des savants mujtahid. Donc, pareil, les prophètes sont préservés de la mécréance. Le prophète n'a jamais adoré les astres. Au contraire, il était connu. Et les gens, ils l'ont remarqué par le fait qu'il ne jurait jamais par leur statut. Et d'ailleurs, parmi ce qu'il a remarqué, celui qui était au service de Khadija, qui était Maïsara, qui était parti avec le prophète pour un commerce pour Khadija, et ce qu'il a remarqué, c'est que le prophète, il voulait pas jurer. Quand il avait un différend dans la transaction avec quelqu'un, il lui a dit « Jure par Allah et Al-Uzza », parce qu'ils adoraient les macréants arabes. Il a dit « c'est les choses que je déteste le plus et je ne jurerai jamais avec ça. » Et l'homme, il a cru en sa véracité. Et après, il a dit à Maïsara que lui, il a les caractéristiques du prophète du dernier temps. Donc, voilà parmi les règles très importantes, ils sont préservés de la mécréance avant de recevoir la révélation. Déjà avant, donc pour dire, il y a des simples gens déjà, ça arrivait même de nos jours, donc on connaît des gens, ils sont convertis juste en disant, forcément, donc ça arrivait plusieurs fois, des gens qu'on connaît directement, ils se sont convertis parce qu'ils se sont dit, ce monde, il a forcément un créateur. Et ce créateur ne ressemble pas à ses créatures. Donc la religion qui dit ça, je vais la suivre. Quelqu'un m'a dit directement cela, que je connais, qui s'est converti comme ça. Il est tombé sur quelqu'un et il lui a dit ça et puis il s'est converti. Donc les prophètes, ils sont préservés de la mécréance. Donc là aussi, il y a des versets qu'il faut bien comprendre. Et on a vu au sujet de ce qui était révélé au sujet de Sayyidina Ibrahim. Hadha Rabbi. Ici, c'est une interrogation de reniement. Est-ce cela mon Seigneur comme vous le prétendez? Donc il y en a, ils disent le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, c'est le deuxième meilleur prophète. Ils disent il a douté, il a vu l'astre, il a cru que c'est Dieu. Ça, c'est une blasphème, bien évidemment. Des gens qui ne sont pas prophètes, ils réfléchissent, ils disent ça, c'est pas Dieu. Comment ils attribuent ça au prophète de douter de la divinité de Dieu et de croire que ces astres-là soient Dieu? Donc c'était pour renier à son peuple. Il dit Inni la uhibbul afilin. C'est-à-dire, je n'adore pas les choses qui disparaissent. Parce que, c'est-à-dire que la raison réfute la validité de la divinité pour l'astre, le soleil ou la lune, et n'accepte pas qu'on adore autre que Allah. Selon la raison, celui qui a une forme, une quantité, une localisation, c'est forcément une créature qui a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Et les prophètes sont les plus intelligents. Et on a vu comment il a répliqué au roi. Il lui a dit, Dieu fait que le soleil se lève à l'est. Toi, tu ne pourras pas faire le ramener de l'ouest. Et ça, c'est une preuve que le fait que le soleil se part de l'est à l'ouest, c'est forcément, il y a le créateur qui a voulu que ce soit ainsi et pas autrement. Donc, les prophètes sont préservés de la mécréance. Alors, le verset, donc faire attention des traductions. Ne veut pas dire que tu étais égaré ici, comme certains y traduisent. Alors les savants, ils ont expliqué. Ils ont dit, ça veut dire le prophète, il s'est perdu du chemin. Ça arrivait, le prophète, il s'est perdu du chemin. c'était quand il était enfant, en fait. Une fois, Halim al-Saadiya qui l'a allaité, elle l'a ramené pour le rendre à son grand-père. Et puis elle l'a posé, elle voulait s'arranger et tout, quand elle est arrivée à la Mecque, parce qu'elle habitait en dehors de la Mecque. Et puis elle s'est retournée, elle ne l'a plus trouvé. Elle avait très peur, était en panique, etc. Elle demandait aux gens, et après, au final, elle est partie voir son grand-père. Elle a dit, il faut que je lui dise, parce que c'était le chef, le grand dignitaire, son grand-père de Quraysh, Abu Talib. Et donc, après, lui aussi était en panique, donc il est parti, il a dit aux gens, il a crié pour que les gens, enfin, aillent le chercher, etc. Et après, ils l'ont trouvé. Donc, ils ont dit, c'est un bienfait de Dieu, parce qu'il était enfant encore. Donc, ça décrit le bienfait de Dieu. Dalla, donc, c'est-à-dire il s'est trompé de chemin, il s'est égaré dans le chemin. Comme on dit, égaré en français, il s'est égaré dans le chemin. Pas égaré dans la croyance. L'autre interprétation, c'est que le prophète ne connaisse pas les détails de la religion avant la révélation. Donc, parce que dans la religion, il y a des choses qu'on peut connaître avec la raison, d'autres non. Dieu existe, qu'il est tout-puissant, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début, qu'on ne peut pas l'imaginer, qu'il entend, qu'il voit, qu'il n'est pas concerné par l'espace, le temps. Ça, c'est confirmé avec la raison même. Donc tous les prophètes, ils ont cette croyance. Et des gens simples, ils trouvent ça là déjà. Mais qu'il y a le paradis, l'enfer, qu'il y a tel ange, il s'appelle. Il y a un ange qui s'appelle Djibril, etc. Ça, on ne peut pas savoir avec la raison. Donc le prophète, il savait pas ces détails-là, qu'il nécessite les faits donc d'entendre. Pour lui, ça nécessite la révélation. Pour nous, d'entendre. Donc ils interprétaient par cela. Ils connaissaient pas le Coran, ils connaissaient pas les détails de la foi, qu'il nécessite d'avoir entendre, d'entendre. Le paradis, l'enfer, ce qui se passe dans la tombe, etc. Ça nécessite d'entendre. Mais ce monde est l'un créateur et les statues ne méritent pas l'adoration. Le créateur n'a pas de semblable, n'a pas d'égal, il est tout-puissant, il n'a besoin de rien. Il entend, il voit sans organe, il parle sans langue ni lèvres. Ça, c'est confirmé par la raison, de telle sorte que celui qui renie cela, quoi qu'il fût ignorant, il n'est pas musulman. Donc faire attention, celui qui renie ces choses-là qu'on a dit, qui sont confirmées avec la raison elle seule même, ça, il n'y a pas d'excuse sur ça. Donc le prophète, ils savent cela avant la révélation. Donc c'est cela, la deuxième explication. C'est pas il adorait les astres, non, ou les statues. Il y avait déjà quelqu'un, Zayd ibn Amr ibn Nufayl. C'était le dernier qui est mort sur la foi avant que le prophète reçoive la révélation. Il est mort environ 5 ans. Lui aussi, il avait la bonne croyance. Il reniait aux gens qu'ils égorgent pour autre que Dieu, dit. Et donc, il reniait cela aux gens. Après, il est parti voir des gens du livre. Il a vu qu'ils avaient une mauvaise croyance aussi. Et il y en a un, il lui a dit, mais toi, tu cherches la religion de Ibrahim. Mais il a dit, dans ta ville, là, il y a quelqu'un qui va apparaître, il suit la religion d'Ibrahim, ce sera le dernier des prophètes et le maître des messagers. Et il a dit aux gens, transmettez-lui le salam, ce prophète qui va apparaître, mais je pense pas que je vais vivre jusqu'à ce qu'il apparaîtra. C'est-à-dire qu'il reçoit la révélation. Parce que lui, il a rencontré le prophète, mais avant qu'il reçoive la révélation. Mais il savait pas. Et son fils, d'ailleurs, il fait partie des 10 meilleurs compagnons que le prophète il a annoncé la bonne nouvelle. Donc, Saïd ibn Zayd. Donc, Zayd, donc, ibn Amr ibn Nufayl. Voilà. Il s'appelait lui Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Cet homme-là. Et son fils, il s'est converti. Et puis, quand le prophète il a appelé à l'islam. Et il fait partie des 10 qu'on dit que le prophète il a annoncé qu'ils vont entrer au paradis dans une même hadith. Saïd. Donc on voit des gens qui sont pas prophètes, ils réfléchissent lui, il a voyagé, il est parti au Chem, il reniait à ces gens. Il mangeait même pas la viande qu'ils égorgeaient au nom des statues. Il leur disait, mais c'est Dieu qui descend l'eau du ciel, qui fait pousser les plantes, et que la bête, c'est Dieu qui l'a créée, elle se nourrit avec les choses que Dieu a créées, vous l'égorgez pour autre que Dieu. Donc ils reniaient cela pour eux. Donc voilà, les prophètes, ils sont préservés. Et on a dit, le prophète, il s'est marié avec plusieurs femmes pour des sagesses. C'est pas, il avait le cœur attaché aux femmes. Au contraire, le prophète, il s'est marié avec Khadija, elle avait 40 ans. Lui, il avait 25, il avait la plus belle apparence. Et donc elle l'a demandé parce qu'elle a vu les signes que Maïsara lui a raconté, son serviteur. Il a vu. Donc des ermites lui ont dit, ça c'est un prophète. Est-ce qu'ils ont vu les arbres se prosterner pour lui, ils ont vu le nuage qui lui fait de l'ombre. Elle-même a vu des anges quand il est rentré à la Mecque de son commerce. Elle a vu des anges qui faisaient de l'ombre au prophète. Donc elle a vu des signes. Et les gens du livre, ils disaient, les mécréants des gens du livre, ils savent la vérité, mais beaucoup, ils étaient orgueilleux. Comment ce soit un arabe et ce n'est plus quelqu'un des fils d'Israël qui soit un prophète. Mais ils savaient, beaucoup des arabes, surtout de Médine, ils sont convertis parce qu'ils ont entendu les gens du livre leur ont dit, il y a un prophète. Donc Khadija elle-même aussi, elle a entendu quelqu'un des gens du livre. Il a dit qu'il y a un prophète qui va apparaître à la Mecque. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de signes que le prophète, il va apparaître. Beaucoup des gens du livre, ils lisaient dans les livres avant qu'ils falsifient les livres, il y avait déjà la description du prophète. Ce qui fait certains, ils se sont convertis, d'autres non, des gens du livre. Il y en a certains qui avaient été jaloux, ils étaient orgueilleux, et ils n'ont pas aimé que ce soit un arabe, en fait, le dernier prophète. Alors que le mérite, selon le nom de Dieu, c'est pas par arabe ou pas arabe, par la crainte. Donc, mais Dieu a fait que le dernier prophète, c'est un arabe. Il y avait 4 prophètes arabes, on a dit. Beaucoup, ils étaient hébreux. Donc, c'est pour ça, en islam, on doit respecter la langue hébreu, l'araméen, la langue de Isa, la langue des prophètes, on respecte. Donc, car les prophètes, ils ne sont pas tous arabes, mais ils sont tous musulmans. Ils ont tous une seule croyance. Donc le prophète, il s'est marié parce que ça, en fait, ça soude les tribus, quand il se marie dans les différentes tribus, et ça, les femmes vont enseigner, les femmes rencontrent beaucoup de femmes, elles vont leur enseigner la religion. Donc, ça arrivait des fois, donc le prophète, il explique. Donc les sujets sur par exemple les menstrues, etc., pour les femmes, et ses épouses transmettent après plus facilement aux femmes. Donc, et puis de toute façon, on a dit les arabes mécréants, même ses ennemis, ils reniaient pas au prophète le fait qu'il avait des épouses, y compris Aïcha, donc qui était la seule qui était vierge. Le reste, c'était des gens qui étaient des veuves ou des gens divorcés. La seule Aïcha qui s'est jamais mariée auparavant. Et bien sûr, avant, les gens ils se mariaient dans toutes les communautés du monde, les gens ils se mariaient jeunes. Jusqu'à maintenant, des gens des grand-mères vivantes jusqu'à maintenant, qu'on connaît, qui avaient leur premier enfant vers 11 ans, 12 ans, etc. Donc ça, c'était une habitude. Bon, maintenant, l'habitude, c'est les gens, ils travaillent avec les enfants, etc. Maintenant, c'est rempli de ça, c'est l'inverse. Et les ennemis de l'islam, ils renient. Donc, ces choses-là, qui sont que Dieu a autorisées et considère bien la fornication, travailler la fornication avec les enfants. Il y en a un très connu qui était au gouvernement, il venait dans le Maghreb et il forniquait avec des enfants, des jeunes enfants. Il est très connu. Donc voilà pour dire, donc faire attention, ne pas se moquer d'un fait ou geste du prophète, c'est un blasphème, bien sûr. Donc le prophète, il avait des comportements qu'il a enseignés, donc les comportements des prophètes sont les meilleurs des comportements. Et donc on a vu, voilà, il est la parfaite transmission de la révélation est obligatoire à leur sujet. Il est de ce fait impossible qu'ils taisent quoi que ce soit de la révélation, car ce serait une contradiction avec le statut de prophète. Il est par ailleurs interdit d'attribuer aux prophètes des caractères qui sont dits indignes d'eux, comme la lâcheté. Ils sont courageux, les prophètes. Donc, un prophète, quand il a émigré, c'est pas parce qu'il a fui. Les savants ne disent pas il a fui, comme disent les non-musulmans. Ils disent il a émigré sous l'ordre de Dieu. Le prophète, il n'a pas peur. Déjà, si Abou Bakr et Omar, ils n'ont pas peur, que dure le prophète? Quand le prophète, les gens, ils sont convertis au début. Donc, il n'avait pas l'autorisation d'aller au grand jour où se réunissent les mécréants, de les appeler. C'était d'abord par des gens qu'il connaît, etc., de ceux qui acceptent. Après, c'était l'autorisation est venue après d'appeler au grand jour. Donc, c'est connu, Omar, quand il s'est converti, c'était le 40e. Il a parti, il a crié jusqu'à les gens l'ont frappé, l'ont combattu. Il est parti voir les mécréants qui détestaient le plus le prophète. Il toquait chez eux, il dit, je me suis converti. Il disait, qui rapporte le plus le parole. Il est parti le voir et l'autre, il a crié que Omar. Et ils disent pas, il s'est converti. Les mécréants, ils disent, il est devenu fou. Et Omar, il lui a dit, mais devant les gens, t'as menti, j'ai cru en Allah et en son messager. Et là, ils l'ont combattu pendant des heures. Jusqu'à une personne âgée des associateurs, et il est venu, il l'a séparé. Il a dit, bah, il a choisi, laissez-le, il a choisi une religion pour lui. Et donc, si ces gens-là, ils n'étaient pas lâches, que dire les prophètes? Donc, les prophètes sont courageux. Donc, il est également interdit de prétendre que le prophète Mohammed aurait perdu ne serait-ce qu'une des batailles qu'il a menées. Le prophète est demeuré sûr, ce sont ceux qui n'avaient pas obéi à ses ordres qui ont été momentanément défaits. Donc, le prophète, on ne dit pas qu'il a perdu, parce que les prophètes, ils sont gagnants. Donc, celui qui fait ce que Dieu a ordonné, toujours il est gagnant. C'est dit dans le Coran, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire, ceux qui te suivent, ça parle de Isa, hein. Parce que ceux qui suivent Mohammed, c'est ceux qui suivent Isa. Qui suit Isa, qui suit les prophètes, c'est celui qui suit Mohammed. Ceux qui suivent les prophètes, c'est ceux-là, ils sont au-dessus des mécréants. Parce que qui sera gagnant, qui est le victorieux, c'est celui qui va gagner dans l'au-delà. Parce que cette vie est éphémère. Mécréant, même s'il a tué des musulmans, même s'il a fait du mal, mais au final, il va où? En enfer pour éternellement. Le musulman, même s'il a été tué injustement, c'est des douleurs passagères. Comme on a vu l'histoire, les magiciens, ils ont dit à Pharaon. Ils sont convertis, mais c'est eux qui ont gagné. Il les a tués, mais c'est qui a gagné? C'est eux. Lui, voilà, il était souverain quelques années, et c'est parti, il est mort noyé. Eux, ils ont subi une douleur de quelques minutes, ils ont une félicité qui ne s'arrête jamais. Donc, vous voyez. Donc, le prophète, alayhi, il est gagnant. Il y en a, ils n'ont pas obéi à ses ordres. C'est arrivé surtout, donc, par exemple, le fait marquant, c'était la bataille de Uhud. Ceux qui on leur a dit de rester, protéger l'arrière des musulmans contre la cavalerie des mécréants avec flèches, en fait, leur arc. Et il y en a, ils n'ont pas obéi, ils ont quitté leur poste, puis les mécréants, il y avait avec Khalid ibn al-Walid, et ils ont attaqué les musulmans. Et Hamza, il a été tué, etc. Donc on ne dit pas ce terme-là, le prophète, il a perdu. En fait, il est gagnant. Celui qui obéit à Dieu, il est gagnant. Mais on peut dire, le prophète, il a été blessé, effectivement, il a été blessé dans cette bataille-là. Et des dents, ils ont cassé certains de ses dents. Son visage était blessé, etc. Donc, mais il est gagnant. Voilà, donc ça c'est... Les prophètes, ils ne mentent pas, ça on l'a vu. Donc d'accord. Faire attention, il y a un hadith. Donc comme les hadiths, il y a des hadiths faibles et des hadiths, et les savants, ils interprètent, ou des fois ils les renient, ça contredit les bases. Il y a des règles chez les savants du hadith. Quand le hadith contredit les fondements, il est rejeté, sauf s'il admet une interprétation par un sens second. Donc, les prophètes ne mentent pas. Mais il y a un hadith qui parle de trois situations pour Sayyidina Ibrahim. Il est cité le terme kadhaba, mais les savants, ils ont renié ce hadith-là, parce qu'il y a des règles dans la chaîne de transmission. Donc, parce que quand tu dis, on dit le pro, il y a un hadith, ça veut dire que tu es devant le prophète, il parle, le prophète, il te parle. C'est logique, c'est pas ça. C'est une chaîne de transmission. Cette chaîne, elle doit être validée avec certaines règles. Qui rapporte, c'est qui un tel, qu'est-ce que les gens ils ont dit de cet un tel dans la chaîne, etc. C'est vraiment une grande science, la science du hadith. Et puis, l'information dans ce hadith-là, est-ce qu'elle est linguistiquement, est-ce qu'elle est correcte? Si là, linguistiquement, c'est faux, c'est pas bon, le prophète il parle pas avec des erreurs de la langue. Après, est-ce que l'information contient, est-ce qu'elle contredit un hadith plus haut dans la, plus valide, plus fort? Est-ce que ça contredit un verset ou est-ce que ça contredit la raison? Un exemple, il ne peut pas avoir un hadith qui dit 2 plus 2 est égal à 5. Parce que c'est impossible rationnel que 2 plus 2 est égal à 5. Ça, on l'a vu. Il faut revoir les autres cours, c'est important. Donc, pareil, c'est impossible qu'il y ait un hadith qui attribue à Dieu l'espace-le-temps. Parce que c'est une impossibilité rationnelle que Dieu soit concerné par l'espace-le-temps. Donc, c'est un hadith qui est un verset dont le sens apparent laisserait penser à une information contraire à la raison, nécessairement il est interprété. Donc, pour le verset, il est interprété. Pour le hadith, donc il est interprété. Des fois, si il ne peut pas être interprété, c'est que c'est un faux hadith. Il y a des règles, c'est des règles vraiment chez les grands spécialistes du hadith. Spécialiste du hadith, c'est pas, je redis, c'est pas quelqu'un qui a un logiciel qui tape, c'est pas parce que quelqu'un il a un titre. Une fac arabe, non, un savant du hadith comme Bukhari, Muslim, donc l'imam Malik, etc., qui ont une chaîne de transmission, qui ont, comme je donne un exemple, l'imam Malik, il a dit, j'ai donné le fatwa que 70 savants, ils m'ont donné l'autorisation. Il a l'autorisation de savants avant lui, qui ont eux-mêmes l'autorisation de savants avant eux, jusqu'aux compagnons qui ont l'autorisation du prophète. Allez, salatu wassalam. Donc, voilà, donc, et d'autres, ils ont interprété ce hadith-là, qui parle de Saïd Ibrahim, qu'il a dit une phrase que la personne, de sens apparent, ça laisse penser à un mensonge. Le sens apparent. Mais c'est pas un mensonge. C'est-à-dire une phrase qui admet plusieurs sens. Quelqu'un, il pourrait penser que c'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge, vraiment. Par exemple, l'exemple qui est cité pour Saïd Ibrahim quand le roi méchant il prenait des femmes mariées de force et il faisait la fornication avec elles, les belles femmes. Et une fois, ses sujets à lui, à ce roi, ils ont vu Ibrahim, il passait par cette terre avec sa femme Sarah qui avait une belle apparence. Alors ils ont remonté au roi, il a dit qu'il faut ramener. Il a demandé à Ibrahim. Ibrahim, ils sont intelligents, les prophètes, il a compris. Un méchant, si tu dis c'est ma femme, il va dire, il va tuer, il va prendre ta femme. Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Il a dit c'est ma soeur. Au sens apparent, quelqu'un il pourrait croire que c'est un mensonge, mais en réalité, quand tu regardes précisément, c'est pas un mensonge. Parce qu'il dit ma soeur. Il n'a pas dit c'est ma soeur de sang. Il a dit c'est ma soeur. C'est-à-dire c'est ma soeur en islam. Il lui a expliqué. Après, Ibrahim lui a dit. C'est ce que je lui ai dit, parce que Après, il a demandé Sarah, lui. Il a dit, je lui dis, t'es ma sœur, parce qu'on est tous les deux, donc on est les seuls croyants sur terre. Donc, ça veut dire que les deux musulmans, en fait, ils sont sur cette région-là, en fait. Donc, il a dit, qui c'est sa sœur, c'est-à-dire, c'est sa sœur en islam. Après, il y a l'histoire, elle a fait le wudu. Ça montre dans le hadith, elle a fait le wudu. Il existait le wudu avant. Elle a fait de rak'a, elle a fait de du'a, et quand il voulait la toucher, sa main était paralysée 3 fois. Après, il l'a lâchée. À chaque fois qu'il voulait, sa main se paralysait. Après, il l'a relâchée, il a dit, mais ça, c'est une djinn que vous m'avez ramenée, c'est pas une femme. Il lui a offert des choses et il lui a donné même Hajar avec elle. Donc, voilà, les prophètes, ils ne mentent pas. Et aussi, ce qui est cité ici, là, dans l'article, c'est-à-dire, c'est la grande idole qui en est responsable. Demandez aux petites si elles peuvent parler. Il a employé une formule métonymique pour leur faire comprendre que la glorification des non-croyants envers la grande statue l'avait poussé, lui, à fracasser toutes les petites afin de l'humilier. Donc là aussi, c'est pas un mensonge, c'est de façon figurée. C'est-à-dire, le fait que vous vous glorifiez, ça m'a poussé donc à casser les petites. Parce que quand ils sont partis dans leur fête, il est parti où il y avait les statues, il les a cassées avec une hache. Mais il a accroché la hache sur la grande. Pour les faire réfléchir que regardez, vous adorez, mais c'est même pas, ils se défendent même pas ces statues-là. Et la grande, elle peut pas défendre des autres. Et comment vous les adorez? Donc c'est pas un mensonge. Et quand tu leur as dit, Inni Sakhim, je suis malade, quand tu l'as invité à leur fête. C'est-à-dire, ce que vous faites, ça me rend malade. La mécréance, bien sûr. Donc voilà, c'est pas du mensonge, en fait, réellement. Donc ils ont interprété par ces cas-là qui sont arrivés. Et d'autres, ils ont renié ce hadith où il est attribué Kadhaba, le mot Kadhaba, au prophète Ibrahim. Donc voyez, la science de la religion, c'est minutieux. C'est de gens de confiance, ça s'apprend. Sinon, t'es perdu. Et on a vu la fois dernière, et c'est important, que les prophètes n'incitent pas à la mécréance. Aider à la mécréance et de la mécréance. Ça, c'est un sujet unanime en islam. Tu emmènes quelqu'un voler, c'est un péché. Tu emmènes quelqu'un faire de la mécréance, c'est de la mécréance. Tu dis à quelqu'un, dis la mécréance, c'est de la mécréance. Comme certains, ils disent au bled, ils disent à quelqu'un, Dieu, ils disent, mais l'enfant insulte Dieu. L'enfant, il n'est pas pubère, c'est pas noté sur lui, mais celui qui lui dit d'insulter Dieu, c'est de la mécréance. Donc dire à un enfant, ou dire à un musulman, ou dire à un mécréant, insulte Dieu, c'est de la mécréance. Celui qui ordonne, c'est de la mécréance. Celui qui le fait, c'est de la mécréance. Maintenant, s'il était musulman, il sort de l'islam. S'il n'était pas musulman, ben, il augmente en mécréance. C'est aussi simple que ça. Donc, fais attention, il y a des gens, et donc ils propagent des choses contraires aux règles religieuses. Le prophète nous a dit qu'il y a les sectes qui dévient de la voie des prophètes. Il a dit, la communauté de Moïse s'est divisée en 71 groupes. La communauté de Jésus s'est divisée en 72 et ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. C'est la majorité, alhamdoulilah, c'est les sunnites. Donc il y a des gens, des groupes égarés qui viennent. Comment ils apparaissent ces groupes-là égarés? Ils disent pas clairement je suis contre le Coran. Non, ils vont dévier sur une interprétation. Ils suivent les passions sur un sujet. Ils vont être d'accord sur un sujet, ils vont s'égarer sur un point. Donc il n'y a pas d'excuse, suivre les passions. Donc ils suivent les passions comme des gens qui disent que les prophètes incitent à la mécréance, ils disent que dire la mécréance tant qu'on est déjà mécréant, ça fait rien. Donc le mécréant, si il vole et il tue, ça fait des péchés en plus. Il y a un châtiment en plus. Donc celui plus il fait, c'est dit dans le Coran. Il parlait de ceux qui rendent des mécréants qui rendaient les sites les moins sacrés. Et il dit c'est une augmentation de mécréance. Ils rendaient permis les moins sacrés en fait. qu'il y avait des mois sacrés, que c'était interdit de combattre. Et eux, ils avaient envie de combattre, ils disent, bon, on va changer, on va mettre un autre mois sacré à la place. Et ça, c'était révélé dans le Coran. Alors que c'est des mécréants, il dit clairement, il n'a menacé aux iyad dans le kouf. Alors, donc, et on a vu, donc on va finir avec, voilà, vers la fin. Donc, c'est des sujets très importants, les prophètes, donc, alors, on a vu, mais je reprends rapidement, que c'est une interrogation rhétorique. Et il y a un article sur l'interrogation rhétorique. Ici, vous pouvez réviser en détail. Donc, le prophète, quand il a dit Ma ta'boudoun, c'est Ibrahim, il est intelligent, il voit bien qu'ils adorent des statues, il ne va pas dire. Donc, quelqu'un est sur un. Tu le vois dans une voiture, tu dis. Tu es dans une voiture? C'est une question qui manque qui manque de pertinence. Donc, il voit bien qu'ils adorent des statues. Alors, les savants, ici, c'est pour renier. Comme quelqu'un qui fait une bêtise, tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, quand tu dis à ton fils, il a. Peint tout le mur avec le feutre noir, bon, ça nous arrive. Et tu me dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais t'attends pas qu'ils disent, oui, moi j'ai sali le mur. Ben non, c'est. T'attends même pas qu'ils te répondent. Généralement, tu veux qu'ils se taisent et voilà, qu'ils ressentent le blâme. Donc, ça, c'est connu dans la rhétorique. Mais des gens tellement, donc ils ont faible esprit, ils connaissent pas ces sujets de la rhétorique qui sont utilisés même par le commun des gens. Hein. C'est pas des gens qui ont fait des études, là, on parle. Le commun des gens, ça utilise, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu dis quoi? C'est-à-dire pour renier. Et bah, c'est utilisé dans le Coran, cette figure de style. Parce que le Coran, ça utilise les figures de style de la langue arabe. C'est le plus haut niveau de la rhétorique, le Coran. C'était venu, c'est le miracle permanent qui est venu pour défier le plus éloquent des Arabes, qui était très fort, qu'ils n'ont pas pu donc opposer quoi que, ils n'ont pas op pu opposer quoi que ce soit au Coran. Donc voilà, et puis les savants, ils ont dit cela, etc. Donc il y a des gens, malheureusement, ils lisent les traductions tout seuls, ils vont lire des livres arabes tout seuls à droite à gauche, ils comprennent mal. C'est pas comme ça la religion. La religion, ça prend par chaîne de transmission. Donc le prophète Ibrahim, il le reniait. Parce que les savants, ils ont dit, comme là, même quelqu'un, il vient et te dit, je veux devenir musulman. Si tu lui dis, attends, tu sors de l'islam. Parce que tu as approuvé qu'il reste mécréant. Donc, on ne peut pas approuver la mécréance, on ne peut pas aider la mécréance. Les grands savants, comme. Donc il y a les preuves ici citées. Beaucoup de savants que le. Donc, Abu Hanifa, par exemple, disait que nous, on fait des débats comme s'il y avait des oiseaux sur notre tête, de peur de faire glisser l'adversaire, car celui qui veut faire glisser l'adversaire, il veut le faire tomber dans la mécréance, soi-disant pour le répliquer, comme certains ils font le débat, ils veulent pousser l'autre à dire la faute pour qu'il réplique devant les gens. Il a dit, il tombe dans la mécréance avant son adversaire. Tu veux le pousser à dire la mécréance, soi-disant pour le répliquer, tu sors de l'islam, hein. Il a dit. Tu tombes dans la mécréance avant lui, il a dit. Abu Hanifa, il disait cela. Voilà, elle est là, elle est citée ici. Il disait ça à son fils. Il disait à son fils, ne fais pas de débat. Il avait peur pour son fils. Fais pas dans des débats dans la croyance. Et son fils lui dit, mais toi, tu fais des débats dans la croyance. Mon père, et tu me dis de ne pas faire. Il lui explique que nous, on fait attention. Quand on réplique directement, on ne fait pas prononcer l'autre la mécréance. On ne le pousse pas à dire la mécréance. Puis il y a le hadith où le prophète, il dit que l'un de vous n'insulte pas ses parents. Ils lui ont dit comment quelqu'un insulte ses parents. Il a dit le fait qu'il insulte les parents de l'autre, que l'autre, il va insulter ses parents. Donc le fait qu'il provoque l'insulte de ses parents, c'est comme s'il a insulté ses parents. Et le verset qui dit ne pas insulter, les idoles des mécréants pour qu'ils n'insultent pas en retour, n'insultent pas Dieu en retour. Donc voilà, on a vu cela. Et dernier point aussi très important, faut savoir que les prophètes, ils ont des noms bien. des noms bien. Et on ne dit pas les noms des prophètes c'est mauvais, on respecte les noms des prophètes. Ça peut arriver, quelqu'un il veut choisir le nom de son nouveau-né. Dans l'islam, on peut choisir n'importe quel nom qui est permis. On n'est pas obligé de prendre le nom d'un prophète. Mais on ne peut pas se moquer, dire non, j'aime pas ce nom-là. Ces discussions, donc ça peut arriver en famille. Donc, des gens, c'est arrivé, quelqu'un il veut appeler son fils par un nom d'un prophète hébreu, on ne peut pas dire non. Parce que tous les prophètes, c'est des musulmans. Il n'y a que quatre prophètes arabes. Moïse, il parlait l'hébreu, et c'est un prophète. Donc, il y avait beaucoup de prophètes qui parlaient hébreu. Donc quelqu'un, il va appeler son... Donc, des fois, des Maghrébins, ah, ils sont choqués. Quelqu'un, il va appeler son fils Ishaq ou Yaqoub. Bien sûr, l'intelligent musulman qui a appris, il agit avec sagesse. Il va pas provoquer des gens. Parce que c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas d'excuses, mais lui, il a peur pour eux. Il n'a pas... Avec l'ignorance maintenant et des choses permises, il va les éviter. Il va pas provoquer des gens ignorants pour qu'ils disent des choses graves. Parce que de toutes les manières, ils n'ont pas d'excuses, mais lui, il a peur pour eux. Donc, mais on cite la règle, quelqu'un il se moque du nom Ishaq ou Yaqub, ou c'est un blasphème. Parce que c'est le nom des prophètes. Donc les meilleurs des noms, alors il faut le savoir. Il y en a qui croient, ils disent un chose qui c'est pas un hadith, ils disent khayrul asma ma ubida wa humida. Ça c'est pas un hadith. Le hadith c'est khayrul asma Abdullah et Abdurrahman. Les meilleurs noms Abdullah et Abdurrahman. Donc ça c'est les meilleurs noms. Donc quelqu'un, bon, il a pas choisi ses noms, il a peur que les gens, surtout d'un jour, ils déforment ce nom-là, parce que même au bled, les gens ils disent Abdullah alors que c'est haram. Des fois quelqu'un il a évité pour que les gens ils n'écorchent pas ce nom-là. Parce que ce nom-là, on peut pas s'asseoir dessus. Parce que Abdullah, c'est composé Abdullah, esclave de Dieu. Donc il y a, dans ce nom composé, il y a le nom de Dieu. On peut pas jeter. Abdurrahman, ça c'est les meilleurs noms. C'est pas... donc le nom du prophète, ça vient pas avant ça. Avant les noms du prophète, c'est tous les noms où il y a le nom de Dieu dedans. Abdullah, Abdul Salam, Abdul Karim, Abdurrahim. Donc, ça c'est les meilleurs. Après, ça vient le nom du prophète. Donc, voilà. Bien sûr, quand on dit Abdul Karim, on parle Karim, ici c'est le nom de Dieu. Mais on dit à quelqu'un il s'appelle Karim tout court, c'est pas la même signification. Donc, voilà. Voilà. Et donc, il faut pas rabaisser le nom des prophètes. Et le nom des prophètes, c'est des noms bien. Et c'est là où on voulait citer, surtout, c'était le prophète Lout. Donc le prophète Lout, son nom, il n'est pas dérivé de l'acte liwat en arabe qui est la sodomie. Que beaucoup de son peuple, ils ont fait cela. Mais c'est cet acte-là, ce nom-là, liwat, qui désigne l'acte de la sodomie, il existait avant les Arabes. Les Arabes avant le peuple de Lout. Houd et Salah, les peuples Ad, c'était les Arabes. Et il y avait ces noms-là déjà. Donc ce nom-là, de cet acte, n'est pas dérivé du nom d'un prophète. En fait, le nom de prophète n'est pas dérivé d'un acte qui désigne une mauvaise action. Et une mauvaise action n'est pas dérivée d'un nom d'un prophète. Donc déjà, parce que Lout, il n'est pas arabe, et la dérivation de l'arabe, ça vient de l'arabe. Et Lout, il n'est pas arabe, parce que Houd, Salah, Shu'aib, Muhammad, dans le hadith, ceux-là, les quatre prophètes arabes. Et puis, il existait avant Lout, la langue arabe. Parce que beaucoup de savants, ils ont dit la première langue qu'il a parlé à Adam, c'est l'arabe. Et c'est une langue révélée. Donc voilà, sur les noms des prophètes. Et sur les caractéristiques des prophètes. Et on a dit, le shaitan, il peut pas rentrer dans le corps des prophètes, faire attention. Là aussi, certaines histoires erronées. Iblis, il a jamais parlé sur la langue du prophète. Une fois, le prophète, il est récité, et Iblis, il a profité de la pause du prophète, il a fait entendre aux associateurs l'éloge des statues. Et les mécréants se sont prosternés, ils ont dit, ah, Muhammad, c'est la première fois qu'il fait l'éloge de nos statues. Eux, ils croient que c'est le prophète, mais c'est Satan qui a parlé, il voulait faire croire que c'est le prophète, et il a parlé loin. C'est pas, il était dans le corps du prophète, c'est-à-dire il peut pas rentrer dans le corps des prophètes. Déjà, si tu récites bien les invocations de protection, il peut pas rentrer dans ton corps. Mais ils peuvent rentrer dans le corps de certains qui ne font pas les invocations de protection. Certains qui ne font pas aussi, Dieu les préserve, sont aussi. Donc voilà. Et à la fin, comme ça, donc on finit le cours, différence entre les prophètes et les messagers. Donc on a parlé prophète et messager. Le prophète messager, c'est un statut plus élevé. Comme Mohammed, Moussa, Isa, Adam. Parce que le prophète messager, il a une nouvelle loi. Le prophète messager, il a une nouvelle loi. Prophète non messager, c'est un statut moins que le prophète messager. Il lui est révélé la loi du prophète messager avant lui de la transmettre. Ce n'est pas une nouvelle loi. C'est ça. Mais tous les deux doivent transmettre. Donc c'est ça. Le prophète Nabi et le messager Rasoul ont en commun la révélation. Allah leur révèle donc à tous deux une loi de l'islam, conformément à laquelle ils agissent pour la transmettre aux gens. Toutefois, le messager vient avec l'abrogation d'une partie de la loi antérieure à son envoi ou avec une nouvelle loi. Donc il abroge une partie de la loi ou une nouvelle loi complètement. Mais de toute la manière, il y a des choses qui n'ont pas changé chez tous les prophètes. Interdit de manger le porc, le sang, la fornication, l'homicide. Donc l'injustice, ça c'est ça n'a pas changé chez tous les prophètes. Donc il y avait la prière chez tous les prophètes, mais le nombre il a changé. Mais il y avait la prière avec l'inclination, la prosternation. Donc le prophète qui n'est pas messager, il lui est révélé de suivre la loi d'un messager précédent pour la transmettre. Pour cela, les savants ont dit, tout messager est aussi prophète, alors que tout prophète n'est pas forcément messager. De plus, il s'y différencie par le fait que le statut de messager peut être attribué aux anges et aux êtres humains. Comme Jibril, c'est un messager pour les anges. Mais les anges, ils font les cinq prières, ils font tout ce que Dieu ordonne. Bien sûr, eux, ils jeûnent pas parce qu'eux, ils mangent pas, ils boivent pas, ils dorment pas, ils se fatiguent pas, ils se reproduisent pas. Ils ne sont ni mâles ni femelles. Alors que la simple prophétie ne peut être l'être que pour les humains. Donc il n'y a pas de prophète parmi les djinns aussi. Voilà, donc on arrive vers la fin. Donc il y avait des détails comme quand c'est un sujet important. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le croyant ne se rassasie pas d'un bien que l'entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Et bien sûr, la mort ne prévient pas. Donc la personne fait le bien tant qu'elle peut. Donc révisez bien. Donc pour les questions, vous pouvez envoyer sur WhatsApp, ceux qui n'ont pas, sinon, donc sur le site, et vous recevrez donc le WhatsApp ou Telegram. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashraf al-Mursaleen, wa Khatam al-Nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin. Donc ça reste en ligne bien sûr comme d'habitude, et il y aura l'audio qui sera dans la description, et puis je l'envoie par WhatsApp, et ça sera sur le cours donc audio en haut. Il y a déjà deux audios, et donc il y aura un autre que vous pouvez télécharger, réécouter, inshallah. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.